En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc toujours pour commencer, on met l'accent sur la posture. Donc on commence par prendre une posture correcte, c'est-à-dire avec la colonne vertébrale bien droite. Colonne vertébrale bien droite, ça veut dire juste vérifier que la colonne est bien empilée. En principe, si elle est bien empilée, ça tient tout seul. Donc on imagine qu'on pousse le plafond avec le sommet de la tête. On rentre légèrement le menton. Et ensuite, tout le corps doit être bien relax, bien détendu. Donc on fait un petit scanner corporel pour voir toutes les zones de tension et on relâche, notamment au niveau des épaules, de la nuque, des muscles du visage. Les mains peuvent reposer tranquillement sur les genoux. Et on médite les yeux ouverts. On dit le regard dans le prolongement de l'arête du nez. Et lui aussi, le regard très détendu, on ne fixe rien en particulier. Le regard est simplement posé devant soi. Très relax, très naturel, sans aucune tension. Voilà, on prend son temps pour trouver la bonne attitude du corps. Le bassin lui aussi est très souple et très mobile, donc voilà, on peut aussi ajuster au niveau de la cambrure, voir comment la colonne vertébrale peut être la plus droite possible et en même temps très souple. En principe, il ne devrait y avoir aucun effort à nulle part. Quand on parle de chiné, donc la méditation du calme mental, c'est on n'utilise pas le terme relaxation, parce que c'est pas la finalité, c'est pas une méthode de relaxation, mais en fait tout est là. Chiné, c'est apprendre à se détendre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est trouver cet espace de détente, donc il s'agit vraiment de se relaxer. D'apprendre à se relaxer, et donc la relaxation du corps participe de la relaxation de l'esprit. On dit qu'on doit avoir en méditation l'état d'esprit de quelqu'un qui a une journée bien remplie, qui rentre chez lui, il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir, il a fait tout ce qu'il avait à faire, plus rien à faire. Il peut enfin s'asseoir dans son fauteuil et se laisser aller, se détendre, laisser de côté ses préoccupations. Mettre le corps en vacances, mettre l'esprit en vacances, c'est avec cette attitude qu'on devrait méditer. On s'autorise à se détendre. Et tranquillement, on va s'ancrer progressivement dans l'instant présent, en prenant conscience d'abord de l'environnement proche, l'atmosphère de cette pièce, la température, les sons environnants. prends aussi conscience de notre humeur de ce soir, notre état d'esprit actuel, mais sans porter de jugement, on constate juste comment est notre état d'esprit. Est-ce qu'il est plutôt agité? Est-ce qu'il est plutôt calme, triste, joyeux? Voilà, c'est un simple constat, on porte aucun jugement. On en prend simplement conscience. La méditation, c'est pas nécessairement une introspection. On est à la fois conscient de ce qui se passe à l'intérieur, mais à la fois tout à fait conscient de ce qui se passe à l'extérieur. C'est une conscience très vaste, très large, qui se limite à aucun phénomène. Et le mot-clé, c'est pas d'effort. On fait aucun effort. Être conscient n'implique pas de faire des efforts. On n'essaye pas de calmer quoi que ce soit. On n'essaye pas de créer un état de calme. S'il y a beaucoup de pensées, on est conscient qu'il y a beaucoup de pensées. S'il y a peu de pensées, on est conscient qu'il y a peu de pensées, mais on n'en pense rien. On s'autorise à rester très détendu par rapport à ce qu'on observe. Si au bout de quelques instants, on s'aperçoit que l'esprit est tombé dans la distraction, c'est-à-dire qu'il s'est échappé, qu'il s'est évadé, qu'il a été emporté par une pensée ou une préoccupation, au moment même où on s'en rend compte, c'est qu'on n'est plus distrait. Donc là non plus, il n'y a aucun effort à faire. Dès le moment où on se rend compte qu'on a été distrait, c'est qu'on ne l'est plus. Donc on s'autorise à aller de l'avant, à ne pas revenir sur la pensée, à ne pas revenir sur la préoccupation, simplement en rester là. Laisser les choses en suspens, non résolues, et revenir dans l'instant présent, conscient de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui se passe à l'extérieur comme à l'intérieur. Aucun effort. Donc ce soir on va parler de la paramita de la patience. Alors quand on parle de la patience dans le bouddhisme, c'est toujours dans le contexte d'une adversité. C'est-à-dire, le contexte pour pratiquer la patience, bah, c'est vis-à-vis des circonstances adverses. Et voilà, c'est dans ce genre de cadre qu'on est invité à pratiquer la patience. Alors juste avant de lire la strophe du livre, parce que c'est vrai que la façon dont est présentée la patience, ça peut être difficile à avaler, parce que c'est très exigeant. On va parler de l'aboutissement de la patience quand un bodhisattva a accompli, voilà, a mené cet entraînement jusqu'au bout, ce qu'il est capable de faire. Pour bien qu'on se comprenne, Shogyam Trungpa, quand il parle de la patience, il dit que nous, les Occidentaux, on a tendance à comprendre la patience au sens puritain du terme, c'est-à-dire confondre le fait d'être patient et se montrer patient. C'est-à-dire, il y a l'état d'esprit, être patient, et puis il y a l'idée qu'on s'en fait, c'est-à-dire une attitude. Se montrer patient, alors qu'on ne l'est pas forcément intérieurement, eh ben, on adopte une sorte d'attitude, une caricature de quelqu'un qui serait patient. C'est-à-dire très, très froid, ou alors très indifférent, ou alors un peu naïf. Voilà, ça glisse, quelles que soient les circonstances difficiles ou pénibles, je sens rien. Enfin voilà, un peu ce côté-là où on affiche une sorte de sourire, soit béat, soit un peu faux. Vis-à-vis des circonstances difficiles. Et alors que, du point de vue de l'esprit, on n'est pas prêt à regarder la situation telle qu'elle est. On n'est pas prêt à la vivre telle qu'elle se présente. On affiche juste une sorte de comportement de patience, mais qui n'est pas le fruit d'une intelligence, qui n'est pas le fruit d'une compréhension. Et faut faire attention à ça parce que. Si on n'est pas prêt à vouloir aller plus loin dans la situation, à vraiment vouloir la comprendre, ce qui va se passer, c'est que tôt ou tard, ça va lâcher. C'est-à-dire cette attitude puritaine, elle va finir par lâcher et on va finir par exploser au bout d'un moment. Parce que finalement, on n'a pas été au cœur de la situation. On s'est juste montré patient parce qu'il faut être patient. Parce qu'on nous a dit de pratiquer la patience, parce qu'il ne faut pas répondre, etc. En fait, on supporte pour supporter. Mais c'est pas le fruit d'une intelligence. Et donc du coup, ça finit par exploser ou par imploser. C'est-à-dire, on en fait des boutons, des ulcères, des choses comme ça. Mais ça nous mènera à rien. Et puis du coup, bah, quand on explose, il n'y a plus du tout de place pour la patience à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on est dans une société où, voilà, on nous a appris une sorte de contrôle de soi, hein, une sorte de contrôle social. Qui fait que bah, on comprend très bien qu'il ne faut pas se mettre en colère, mais en même temps, le pendant de ça, c'est qu'on finit par afficher quelque chose de très lisse. On lisse toutes les émotions, on veut plus, on n'en montre plus rien. Et pratiquer la patience, ça ne veut pas dire qu'on n'exprime plus rien, ça ne veut pas dire qu'on ne communique plus, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus à même d'exprimer un mécontentement ou une désapprobation. Ce n'est pas ça, la patience. La patience, c'est. Par rapport à quelqu'un qui nous cause du tort, c'est ne pas rendre du tort, ne pas répondre au tort par du tort, par de la colère et s'emporter. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'exprime plus, qu'on n'est plus à même de reconnaître que quelqu'un nous provoque ou que quelqu'un nous manque de respect et qu'on le signale. Parce que quand quelqu'un voilà, a une attitude qui n'est pas respectueuse envers nous, on ressent quelque chose, on est des êtres sensibles, donc il y a quand même un signal. Et ce signal-là, justement, dans une mauvaise compréhension de la patience, eh ben, on aurait tendance à vouloir l'étouffer. Il y a un malaise, il y a un mal-être, et donc du coup, oh là, il y a un signal, ben, on l'étouffe. Comme si c'était rien. Non, on reste des êtres sensibles. Donc il faut rester à l'écoute de ce signal qui nous dit il y a quelque chose qui va de travers. Après, ce qui est difficile, c'est de trouver les outils pour exprimer qu'il y a quelque chose qui va de travers, mais sans. Transformer ça en aversion, c'est-à-dire en répondant par du tort, en s'emportant par la colère, etc. Et finalement, développer de l'aversion ou de la haine vis-à-vis de la personne qui nous cause du tort. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse parce que y a aussi une petite BD que j'avais vue sur. Quelqu'un avait publié sur Facebook il y a 2 semaines où on voyait qui illustrait très bien ça, le fait de lisser toutes les émotions et donc du coup en fait on n'arrive même plus à savoir si on est légitime de mettre le holà ou pas. On est un peu perdu quoi. Quelqu'un nous marche sur le pied, enfin voilà, nous cause du tort, mais du coup on est tellement on veut tellement pas se montrer agressif qu'on sait plus si c'est l'autre, si c'est nous, etc. Puis du coup on en finit par être paralysé ou alors dire le contraire de ce qu'on pense. Et la petite histoire, c'est on voyait une femme qui écrivait un texto à son mari en lui disant « t'es en retard !» point d'exclamation. Voilà. Puis elle se dit « ouais, c'est un peu c'est un peu agressif, donc elle efface le texto, et puis elle met à la place est-ce que je t'attends pour dîner? Point d'interrogation. Puis là, elle se dit c'est pas encore ça. Est-ce que je t'attends pour dîner? Point d'interrogation, et puis elle rajoute un petit smiley, un petit personnage qui sourit, quoi. Et voilà, du coup, ça dénature complètement le message. C'est-à-dire le mari, il reçoit pas qu'il a que sa femme est mécontente qu'il soit arrivé en retard. Il reçoit petit smiley, tout va bien, etc. Et voilà, on peut rencontrer aussi des, on peut être dans ce comportement-là ou rencontrer des gens comme ça qui ont l'impression de faire passer un message. C'est-à-dire, elles ressentent vraiment quelque chose et elles souhaitent l'exprimer, mais c'est tellement dénaturé qu'en fait, nous, on reçoit un petit smiley. Donc, on voit pas qu'il y a un problème. Et du coup, la personne, bah, parfois, le jour où vraiment ça explose, bah, elle nous balance tout ça à la figure. Oui, mais je t'avais dit, tu rentres jamais à l'heure, etc. Ben non, je savais pas que ça posait un problème. Alors, on peut rentrer dans ce genre de. On ne sait plus comment faire passer les messages, quoi. Et la patience, voilà.
Alors là, il aurait fallu qu'elle écrive quoi?
T'es en retard.
Ah voilà, donc le
Oui,
premier,
toi.
c'est avec le point d'exclamation.
Oui, l'idée, t'es en retard. C'est-à-dire le fait d'être patient, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de marquer un mécontentement. Voilà, et elle signale qu'elle est contrariée, qu'il soit en retard. Il n'y a pas de problème là-dedans, il n'y a pas une agression. Mais c'est vrai que du point de vue de la société, bah, quand on fait un reproche aux gens, je parle en Occident, c'est pas tout, mais quand on fait un reproche aux gens, on n'aime pas se voir en tort. Donc, ce qu'on renvoie à la personne, c'est Oh, dis donc, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Enfin, voilà, oh, calmos, ou alors Oh, qu'est-ce que tu es susceptible, etc. Nous, du point de vue social, se mettre en colère, déjà, ça nous décrédibilise. Nous, on comprend très bien qu'il ne faut pas se mettre en colère, mais rien que le fait de s'emporter, dans le contexte professionnel, déjà, ça nous décrédibilise. Si on se met en colère, c'est, oh, voyons, t'as pété un plomb. Enfin, voilà, on nous renvoie l'idée que dès qu'on exprime une émotion ou un mécontentement, c'est très facile de renvoyer à la personne que, en fait, c'est elle qui a un problème et pas nous. Quelqu'un qui nous provoque, bah, si on marque une désapprobation, bah souvent, on peut avoir affaire à quelqu'un qui va nous dire Oh, qu'est-ce que tu es susceptible, je déconne, ou des choses comme ça. Lui faire passer On a été provoqué et on nous renvoie l'idée que c'est nous qui agressons la personne. Donc c'est un peu difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, l'humour, ça peut être une arme. C'est-à-dire, l'humour, l'idée, c'est de détendre l'atmosphère, etc. Mais parfois, on peut rencontrer des gens qui, pour faire passer un message blessant, vont utiliser l'humour. Alors, c'est un peu sournois parce que si la personne se défend, voilà, si la personne se défend, on lui disait, oh ben non, je déconne. Ben voilà, c'est. Bon, je sais pas si mon exemple, ça tient la route, mais ce qu'on appelle le sarcasme. Voilà, sarcasme. C'est d'ailleurs, on fait passer une sorte de phrase un peu assassine, un peu incisive, mais on se protège par l'humour. Parce que si la personne répond, on peut toujours dire, oh non, mais je déconne, t'es susceptible aujourd'hui, des choses comme ça. Voilà, c'est pour bien faire comprendre que être patient ne veut pas dire ne pas s'exprimer, ne pas exprimer, ne plus rien exprimer, ne plus rien ressentir. C'est pas ça la patience. Et pourtant, les exemples traditionnels qu'on va voir ce soir, ça peut prêter à confusion. Je vais vous lire la strophe. La 27e strophe nous enseigne la perfection de la patience. Pour un bodhisattva recherchant les joies de la vertu, tous ceux qui l'affligent sont comme une mine de trésors. Cultiver la patience envers tous, sans ressentiment ni désir de vengeance, est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Donc je vous la relis. Pour un bodhisattva recherchant les joies de la vertu, tous ceux qui l'affligent sont comme une mine de trésors. Cultiver la patience envers tous, sans ressentiment ni désir de vengeance, est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Et donc cette histoire, en fait, cette strophe, elle s'appuie sur notamment une histoire traditionnelle, donc tirée des Jataka, ou Jataka, je ne sais jamais. C'est en fait le recueil des vies passées du Bouddha, avant qu'il devienne le Bouddha Shakyamuni. Donc voilà, il y a plein d'histoires comme ça, qui sont voilà, des images fortes, des symboles. dont on peut s'inspirer sur le chemin. Et donc celle qui illustre la patience, c'est l'histoire du Bouddha qui s'appelait à l'époque Kshantivadin. Kshantivadin, c'est celui qui aime pratiquer la patience. Et en ce temps-là, c'était un ermite, un rishi qui vivait dans une forêt. Et le roi de ce royaume avait organisé un pique-nique avec toutes ses femmes dans la forêt. Et donc il s'installe avec toutes ses femmes et puis il part chasser pendant que ses femmes font la cueillette, des fruits, des fleurs, etc. Et en faisant la cueillette, elle tombe sur la clairière où se trouve l'ermite. Et elles finissent par s'asseoir avec lui et puis l'écouter enseigner. Le roi, rentrant de la chasse, voit que ses femmes ont disparu. Et il comprend pas, il les cherche partout. Et puis il tombe sur la clairière et puis il voit entourant l'ermite. Et il se dit, mais qui est cet homme qui monopolise l'attention de toutes mes femmes? Il va le voir et lui dit qui êtes-vous et pourquoi me volez-vous mes femmes? Il est vraiment furax. Et là, l'ermite lui dit je ne vole pas vos femmes, elles sont venues d'elles-mêmes. Et puis pour information, je suis Kshantivadin, celui qui aime pratiquer la patience. Et donc de colère, le roi prend son sabre et puis commence à lui trancher un membre. Et lui dit, alors toi qui aimes pratiquer la patience, est-ce que tu n'es pas fâché? Est-ce que ça ne te met pas en colère? Et Kshantivadin lui dit, non, non, au contraire, je suis très heureux, ça m'aide. Vous me permettez de pratiquer encore plus la patience. Donc il lui tranche les quatre membres. Et maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, je suis tellement. Là, vous tranchez net dans mon illusion, et je fais le souhait que le jour où je deviendrai Bouddha, vous soyez le premier disciple qui, par mes instructions, déracine l'ignorance. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et que. Lorsque le Bouddha devient le Bouddha Shakyamuni, bah son premier disciple, je ne sais plus son nom, voilà, réalise le premier l'éveil, et le Bouddha rappelle les circonstances pour lesquelles c'est arrivé comme ça. Donc vous voyez, c'est très ambitieux, c'est voilà, l'accomplissement de celui qui pratique la patience, c'est-à-dire qui est capable d'intégrer tout au chemin. L'adversité n'est plus vue comme un problème, mais vue comme une opportunité pour se purifier. Donc voilà. Après, on est en chemin. Donc c'est pas. On va voir progressivement comment on peut en arriver là. Mais ce qu'il faut comprendre là, c'est que Kshantivadin, ce qui se passe, c'est que c'est un bodhisattva qui a accompli un chemin et qui est capable de voir dans ce geste de se laisser trancher les membres, tout le potentiel de déraciner à la fois son illusion et à la fois l'illusion du roi. C'est-à-dire, il a une vue très globale. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de la patience, il faut comprendre que donc le terme sanskrit, c'est kshanti. Ça veut dire endurance calme. C'est ça définition de patience, c'est calme endurance. Donc, il s'agit
J'ai pas entendu.
endurance calme.
Calme, ah oui.
Voilà, calme.
Merci.
Donc, ça parle bien d'endurer, de supporter. La patience, c'est donc le contexte, c'est vis-à-vis de l'adversité, endurer, supporter le caractère pénible ou désagréable de telle situation. Mais il y a une intelligence dans Kshanti. C'est-à-dire, c'est pas endurer pour endurer. C'est endurer parce que cette situation, on veut en déraciner, voilà, on veut dénouer les racines du problème en profondeur. Et que pour voilà, dénouer les racines de tout le problème, il faut pouvoir voir la situation dans sa globalité. Pas seulement selon notre perspective à nous, notre point de vue, mais comprendre aussi le point de vue de l'autre. Pourquoi l'autre voit les choses comme ça, avoir plusieurs cartes en main pour voilà, avoir une idée globale de la situation. Et c'est ça que la patience nous permet, c'est d'avoir un peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire, plutôt que de répondre simplement, vouloir simplement se débarrasser du caractère pénible, on veut aller plus loin. C'est-à-dire supporter le caractère pénible pour résoudre la situation en profondeur, beaucoup plus loin. Ça peut être attendre que les circonstances favorables se présente. Parfois, les circonstances ne sont pas là et il suffit d'attendre, de patienter pour attendre le bon moment pour agir, le bon moment pour parler, le bon moment peut-être pour dire, faire passer un message à quelqu'un alors qu'aujourd'hui, il n'est peut-être pas prêt à le recevoir. Peut-être attendre que les circonstances se présentent. Voilà, c'est beaucoup une histoire de... voilà, les circonstances, ça va, ça vient, attendre le moment opportun. Et donc la perspective, voilà, c'est pas une patience aveugle qui supporte pour supporter. L'image qu'on donne, une image traditionnelle, alors je sais pas si ça va vous parler, c'est la patience aveugle, ça ressemble à un animal qui porterait une lourde charge, mais qui continuerait à avancer coûte que coûte jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire, voilà. On m'a dit de patienter, quoi. On m'a dit de supporter, donc je supporte, jusqu'à ce que mort s'en suive. Comme si le fait de supporter pour supporter avait un mérite en soi. Non, on supporte parce qu'il y a une perspective plus large, plus élevée. L'idée de vouloir résoudre le problème en profondeur, en voir toutes les facettes, avoir plusieurs cartes. Et je vais vous lire le commentaire de Rinpoche, parce que voilà, il dit « comprendre le point de vue de l'autre ». Comprendre que, déjà du point de vue bouddhiste, il y a cette notion importante, c'est que toute souffrance qu'on peut rencontrer, à la fois chez soi et à la fois chez l'autre, la racine de ça, c'est un malentendu, ce qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? C'est un malentendu. C'est on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On les interprète selon nos conditionnements. Et ce malentendu, le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, font que ça engendre de la souffrance. Mais finalement, tout le monde est sincère. Même celui qui nous cause du tort, il est pas, c'est pas qu'il est mauvais en soi, c'est lui aussi. Il cherche le bonheur, comme nous. Il cherche la paix, mais du fait de ce malentendu, bah, on le cherche de manière erronée. Et parfois, ça implique de prononcer des paroles blessantes ou blesser quelqu'un, etc. Et bon, je vais lire le commentaire. Donc le commentaire de Rinpoche, c'est « Développer la patience signifie voir les situations en les comprenant mieux, et pardonner plutôt que de nourrir de la haine et du ressentiment. Ceci nous libère et nous rend capables d'engendrer de l'amour bienveillant, de la compassion et d'autres émotions positives. Le pardon est très important. Le Bouddha a dit « Il n'y a rien de pire que la haine et il n'y a pas de pratique plus forte que celle de la patience. » Pour libérer nos esprits de la haine et des sentiments de blessure et de ressentiment que celle-ci génère, nous devrions essayer de comprendre le point de vue des autres et voir la vraie nature des choses. En utilisant ces moyens, nous devrions faire de notre mieux pour surmonter notre haine et devenir plus patients. Une fois que la patience s'est développée au point de devenir spontanée, sa perfection a été accomplie. Voilà, il parle beaucoup du pardon. Et pour pouvoir pardonner... bah, il faut pouvoir faire preuve de compassion. Compassion, compréhension, en fait, c'est synonyme. On dit, voilà, compassion, ça veut dire... la définition, c'est souhaiter que l'autre ne souffre pas. Mais on pourrait très bien le traduire par compréhension. Compassion, compréhension. Compréhension... compréhension que on cherche tous le bonheur. Et compréhension que... bah, on connaît les pièges des malentendus, des illusions, parce que nous-mêmes, on est dedans. Donc si on est à même de reconnaître ces pièges en nous, on est à même de comprendre que la personne agit de telle ou telle façon, même si on n'encourage pas ce genre de comportement, on ne cautionne pas ce genre de comportement si ça implique de causer du tort, truc, mais on comprend que la racine du problème, l'illusion, les poisons de l'esprit, la colère, l'aversion, des choses comme ça. On comprend que ça peut nous emporter. Et c'est ça qui nous fait développer la compréhension, donc qui mène au pardon. Voilà, qu'on est capable de pardonner quelqu'un. C'est-à-dire de cesser de nourrir du ressentiment, de la haine. Ça ne veut pas dire cautionner les actes. Mais voilà, ne pas cultiver de haine, que ça se transforme en haine. Alors il y a trois types de patience. Il y a la patience vis-à-vis des personnes qui nous causent du tort, ça c'est le premier type de patience, vis-à-vis de quelqu'un qui nous cause du tort. Le deuxième type de patience, c'est vis-à-vis des circonstances difficiles. Et le troisième type de patience, c'est vis-à-vis des enseignements profonds. Alors, le premier type de patience, c'est voilà, comment ne pas développer de ressentiment et de haine envers celui qui nous cause du tort. Alors, voilà, il y a plein de pistes, de thèmes de réflexion qui vont nous permettre de faire appel à la raison pour ne pas rentrer dans l'aversion, dans la haine, dans le ressentiment. On nous dit par exemple que quelqu'un qui est sous l'emprise de la colère et qui nous cause du tort sous l'emprise de la colère, c'est de le considérer comme une personne ivre. C'est-à-dire, voilà, personne ivre, sous l'emprise de l'alcool, donc qui n'est plus à même de se contrôler, qui a perdu le contrôle d'elle-même. Et du coup, de diriger notre... de comprendre que le responsable, c'est pas la personne, mais c'est le poison, c'est la haine, c'est le ressentiment, c'est la colère. À la limite, on dit même si vous sentez en colère, essayez de déplacer votre colère vis-à-vis de la colère elle-même. Voilà, des choses comme ça. Comprendre que c'est un peu comme si on était insulté par un fou, quelqu'un qui est, voilà, qui a perdu la raison. Bah, quelque part, si on sait que cette personne est folle, on le prend pas personnellement. Parce que bah, voilà, on sait qu'elle est, elle est pas maître. Donc ça déplace un peu le... Ça dilue le responsable. On nous dit aussi, voilà, toujours dans cette idée de comprendre qu'il n'y a pas un responsable unique. Pour diluer le responsable, c'est comprendre. Donc Shantideva dit, quand quelqu'un vous frappe avec un bâton, pourquoi s'emporter sur la personne et pas sur le bâton? Bon, c'est une image traditionnelle. Hein. Pourquoi pas s'emporter aussi sur votre corps? Si vous n'avez pas de corps, vous ne sentez pas le bâton. Enfin voilà, comprendre que pour qu'il y ait souffrance, pour qu'il y ait caractère pénible, c'est aussi une réunion de causes et de circonstances. Il n'y a pas seulement l'auteur qui est sous l'emprise de la colère, il y a aussi le bâton, il y a aussi le corps, il y a aussi... Voilà. Et cet assemblage de causes et circonstances fait qu'on ressent de la souffrance. Mais on a une vue plus vaste. On n'a plus un bouc émissaire. C'est dilué. C'est des façons de raisonner. On dit aussi que quelque chose qui pourrait nous aider, donc là donc à un niveau plus profond, c'est de comprendre que cette personne qui nous cause du tort, elle nous donne l'occasion de purifier des tendances négatives. Là, en l'occurrence, la tendance négative de répondre au tort par du tort, par de la malveillance, par de la colère, par de la haine, etc. Et que quand on rencontre ce genre de personnes, on devrait être reconnaissant. C'est ça l'attitude du Bodhisattva. C'est, non seulement c'est une opportunité, mais en plus on devrait être reconnaissant. Reconnaissant parce qu'on a les outils pour travailler dessus. Voilà. Si on peut être à même de faire face à cette circonstance avec de la sagesse, c'est pas acquis. C'est-à-dire, ce sont des conditions qui sont précieuses. Aujourd'hui, on est peut-être à même, dans cette situation, d'avoir les outils pour transformer notre façon de voir cette situation, de répondre à cette situation avec de la sagesse. Et ça, c'est très précieux. Il faut avoir, voilà, il faut avoir des conditions pour pouvoir travailler sur notre esprit, et si aujourd'hui on les a, et que la circonstance se présente, bah faut pas rater le coche. Alors voilà, il y a des exemples comme ça dans la vie des maîtres, où... Alors c'est Patrul Rinpoche qui lui avait choisi comme assistant le pire des étudiants. Enfin, vraiment, il avait pris le type le plus insupportable, celui qui râlait non-stop, qui trouvait à redire sur tout, qui trouvait des points négatifs sur tout, il n'y avait voilà, aucune pensée positive, jamais. Et donc, il l'avait pris comme assistant, de façon à être sans arrêt en contact avec cette personne. Et donc, ses étudiants ont fini par lui dire, mais pourquoi lui, quoi ? Et pas trop bien empêché, il disait, parce que c'est mon maître de patience. Mmh. Ouais, il était venu à Santo. Alors on se dit, c'est quand même, faut le faire, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à chercher bien loin pour rencontrer des circonstances pénibles. Pourquoi en plus aller de l'avant, etc. Et c'est vrai, il n'y a pas besoin d'aller chercher les circonstances désagréables. Elles se présentent d'elles-mêmes. Mais il faut comprendre que quand on est dans la pratique spirituelle et puis qu'on chemine, en fait, on plante des graines de vertu. Et à force de planter des graines de vertu, bah, le fruit, c'est que ça va être de plus en plus dur de rencontrer les circonstances pénibles. De par la loi de cause à effet, karma, bah, plus on plante d'actions vertueuses, pensées vertueuses, paroles vertueuses, bah, le fruit karmique, c'est que bah, on est heureux. Et jusqu'à l'éveil, en fait, ça va être de plus en plus difficile de déraciner les obstacles, les derniers obstacles avant la totale réalisation de l'état de Bouddha, parce que les obstacles vont devenir de plus en plus subtils. On se sera débarrassé des obstacles les plus grossiers, et finalement, pour quelqu'un voilà, qui est pour les bodhisattvas avancés, même les personnes pénibles ne sont plus des obstacles, parce qu'en fait, ils n'éprouvent naturellement plus d'aversion. Parce qu'à la place, il n'y a que de la compassion. On voit l'illusion chez l'autre, on voit la confusion dans laquelle elle est qui la fait réagir de manière inconfortable, etc. Mais à partir du moment où il y a de la compassion, il ne peut plus y avoir d'aversion. Il ne peut plus y avoir de ressentiment. Et donc du coup, bah, ça va être difficile de rencontrer des circonstances pénibles. Et pour un bodhisattva, finalement, le pire qui pourrait nous arriver, c'est de s'asseoir, de rester sur ses lauriers. Comment on dit ? S'asseoir sur ses lauriers ? D'ailleurs, bah oui, ça va tellement bien que bah, du coup, il n'y a plus rien qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout du chemin. Voilà, on en reste là. Non, quand on a des opportunités qui se présentent, bah, considérer ces êtres qui nous causent du tort comme des trésors. C'est comme ça qu'il est dit dans le texte, les ennemis comme une mine de trésors, parce que c'est eux qui vont nous permettre d'aller plus loin, de franchir des étapes, de déraciner encore l'illusion. Voilà, c'est un peu l'histoire de Kshantivadin, quoi, qui finalement le remercie, parce que sans lui, il ne peut pas aller jusqu'au bout de sa démarche. C'est pas facile, hein, la patience. Hein, c'est...
Qu'est-ce qui est facile ?
Ouais, qu'est-ce qui est facile ? Alors, le deuxième type de patience, donc on en a parlé, c'est vis-à-vis des circonstances difficiles. Donc là, c'est notamment comprendre que si on rencontre des circonstances pénibles aujourd'hui, c'est le fruit karmique de pensées, paroles et actes accomplis, soit dans cette vie, soit dans les vies passées. Voilà, du point de vue bouddhiste, il y a une perspective où on admet l'existence de vies passées et de vies futures. Et si on rencontre des circonstances pénibles, c'est le fruit karmique, voilà, d'actes, de paroles, pensées non vertueuses. Et quand on rencontre ces circonstances pénibles, on a une occasion justement de purifier ce karma, de transformer ce karma négatif en karma vertueux, c'est-à-dire un karma de patience. Alors, je fais juste une petite nuance par rapport au karma, parce que c'est vrai que parfois, ces karmas, c'est une notion qui est difficile à comprendre. Et parfois, on entend des choses à l'emporte-pièce. Le karma ne... Alors, la formule d'Asanga, c'est de dire le karma ne crée pas les événements. Le karma crée la perception de l'événement et notre façon d'interagir avec l'événement. Et c'est très important à comprendre. Le Bouddha n'a pas dit le karma, c'est l'univers. Il a dit le karma, c'est les agrégats. Il n'a pas dit le karma, c'est les cinq éléments. Il a dit le karma, c'est les agrégats. Ce n'est pas le karma qui crée les événements, c'est le karma, ça crée notre perception de l'événement. C'est une loi de causalité, mais quand on parle des agrégats, en fait, c'est une causalité de l'ordre du psychique. Il y a plein de champs de causalité, il y a des champs de causalité biologiques, il y a des champs de causalité végétales, météorologiques. Quand on parle du karma, c'est de l'ordre du psychique. C'est un champ de causalité qui se prête au psychique. Donc ça, effectivement, faut bien comprendre les agrégats, donc de la forme à la conscience. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ensuite les champs de causalité s'interpénètrent. Et donc du coup, effectivement, quand on perçoit un événement, il y a effectivement plein de champs de causalité qui font que tel événement nous apparaît pénible. Mais quand on parle du karma, c'est pas le karma qui crée les événements. C'est pas, par exemple, on a un cancer, et donc du coup, j'ai un cancer, c'est mon karma. Comme si le karma, c'était une sorte de loi rétributive. T'as été vilain dans tes vies passées, tiens, un petit cancer pour toi. Une petite maladie pour toi. Enfin, c'est pas ça, le karma. Quelqu'un qui, par exemple, aurait été victime d'un viol, et qu'on lui dirait, t'es violé, oui, mais c'est parce que t'as été vilaine, donc c'est ta rétribution. C'est pas du tout cette notion-là. Faut faire attention, parce que faut aussi faire appel au bon sens. Par exemple, on pourrait se dire, les gens qui vivent en Afrique, où il n'y a rien, c'est parce que c'est des gens qui ont accompli des mauvaises actions. Donc l'Afrique a été prévue pour les gens méchants. Voilà, on les met tous en Afrique. Non, en Afrique, il y a des gens qui sont très heureux. Donc voilà, il y a une nuance à avoir, mais voilà, c'est difficile de bien comprendre le karma.
Tu reviendras là-dessus après, enfin.
Oui, bien sûr.
Les paramitas et tout ça, les cinq agrégats.
Pas de problème. C'est pas facile à expliquer. Alors, la façon traditionnelle de la présenter, justement, on ne prend pas trop de risques, c'est dire en tout cas, intention vertueuse conduit à acte vertueux, conduit au bonheur. Intention non vertueuse conduit à acte non vertueux, conduit à malheur, dukkha. Voilà, sukha, dukkha. C'est des notions qu'on retrouve dans beaucoup de traditions. Hein. Bonne action, vous irez au ciel. Mauvaise action, vous irez en enfer. Sauf que du point de vue bouddhiste, on va plus loin. Et puis, il n'y a pas cette notion de châtiment. C'est pas une sorte de loi divine. Tu as été vilain, tu m'as pas écouté, tu iras en enfer, des choses comme ça. Non, c'est une intention qui est non vertueuse, en fait. C'est une intention qui n'est pas... qui est sous le coup de l'illusion. Voilà, on n'est pas... du coup, c'est pas efficace à nous rendre heureux. Donc on va rencontrer dukkha, la souffrance. Si c'est conforme au fonctionnement des choses telles qu'elles sont, intention vertueuse, voilà, conforme à la bodhicitta, acte vertueux, ça donnera les fruits, bonheur, sukha. Donc voilà, il n'y a pas l'idée de quelqu'un qui punirait. Voilà, donc un petit cancer pour toi, ou un petit... Enfin voilà, des choses comme ça. Si on est malade, c'est pas de l'ordre karmique, c'est un champ de causalité qui est biologique. Le corps, il s'en fiche, en fait, d'être malade. C'est nous. Par contre, il peut y avoir une façon de voir la maladie. Là, c'est karmique. D'ailleurs, c'est la double peine. Non seulement on est malade, mais en plus, on vit mal le fait d'être malade. Ça, c'est karma, la perception de la maladie. Mais la maladie en elle-même, le corps se dégrade, on est, donc il y a une causalité biologique, on est, le corps se dégrade, finit par tomber malade, vieillir, mourir. Mais le corps, lui, s'en fiche. Par contre, notre perception de la maladie, d'un individu à l'autre, ça peut être perçu différemment. Bien que ce soit pénible, on peut quand même travailler dessus. Et donc voilà, être patient vis-à-vis des circonstances difficiles, de comprendre que on a l'occasion, en fait, de vivre cette situation pénible, de la transformer. Et si on arrive à la transformer, voilà ce qui est acquis. Si on transforme un karma négatif en un karma positif. Et enfin, le dernier type, ça va? Jusqu'ici, je vous...
Ouais, ouais.
Voilà, je vais finir rapidement. Donc le dernier type de patience est vis-à-vis des enseignements profonds. Avoir la patience de voir qu'on n'est pas à même de comprendre d'emblée la profondeur des enseignements bouddhistes, notamment dès qu'on aborde des notions comme la vacuité, qui sont des choses très profondes, la nature de l'esprit. Nous, en tant qu'occidentaux, on aime bien comprendre les choses, c'est-à-dire pouvoir mettre les choses dans une case, pouvoir conceptualiser et les saisir. Voilà, saisir. Mais justement, le problème, c'est que les enseignements profonds, certains sont au-delà de la saisie. Justement, il n'y a rien à saisir. Et donc, on se casse les dents si on veut les comprendre. C'est-à-dire faire appel à l'intellect pour en avoir une compréhension. Ça ne marchera pas. Parce que justement, il n'y a rien à comprendre. Quand on touche à la vacuité, quand on touche à la nature de l'esprit, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Et ça va nous demander de la patience. De pratiquer jusqu'à ce que la confusion s'estompe et qu'on soit à même de goûter à ces enseignements-là. Si ça ne nous parle pas, si on n'arrive pas à mettre tout notre cœur, ça peut être pénible, mais voilà, on nous invite à être patient par rapport à ça, à nous laisser une marge en se disant, il y a encore des choses à purifier, on est en chemin, ça viendra en son temps. Voilà, ça c'est la patience vis-à-vis des enseignements profonds. Et je finirai par la paramita de la patience. Donc là on a parlé de la patience. La paramita de la patience, c'est la promesse, comme pour toutes les autres paramitas, qu'au bout d'un moment, il y a cette notion de... il n'y a plus d'effort. On n'est plus en train de pratiquer la patience, on devient la patience. On manifeste la patience, on accomplit. Il n'y a plus cet observateur de la situation qui pratique la patience. En fait, Shogyam Trungpa parle d'être sans attente. On est sans attente parce que, déjà, premièrement, on n'est plus dans l'attente de traiter le caractère pénible. Il y a une situation à gérer, mais ce qui nous préoccupe, c'est pas tant le caractère pénible, c'est de gérer la situation. Le fait que ce soit désagréable, finalement, on s'en préoccupe plus. On est prêt à l'assumer. Parce qu'on estime que la situation est ce qu'elle est et qu'il est juste d'endurer cette situation pour aller jusqu'au bout. Donc déjà, il n'y a plus l'attente de traiter la situation pour que ce soit plus désagréable, pour que ce ne soit plus pénible. Ça va plus loin que ça. Et ensuite, il y a l'idée que, en fait, on plonge au cœur de la situation sans se référer ni au passé ni au futur. C'est-à-dire on n'associe plus la situation... on n'est plus dans un système de référence. L'image, c'est d'être à 100% impliqué dans la situation. On accepte d'être à 100% à la situation sans avoir d'attente sur comment elle va se résoudre. Bien sûr, on voudrait qu'elle se résolve, que les choses qui vont de travers n'aillent plus de travers, mais on n'a plus une idée de comment les choses vont se résoudre. On traite les choses telles qu'elles se présentent, sans attente aucune, sans projection de comment elle pourrait se résoudre, donc une référence au futur, et sans regretter le passé, se référer au passé, avant ça allait bien, et puis maintenant c'est un problème, donc du coup je veux revenir à ce que c'était avant. Non, en fait on plonge au cœur de la situation. Et ce qui lâche, en fait, c'est le côté exaspérant. On est tellement impliqué que finalement, l'idée d'être ailleurs ne se présente même plus. Il n'y a plus la pensée de vouloir être ailleurs. On est 100% là, en train de traiter ce qui arrive. Et quand on en est là, c'est là que la notion de sujet, objet et destinataire disparaît. Parce que voilà, quand on parle de paramita, libre des trois sphères, sujet, objet... et destinataire. Bon, ça c'est un peu compliqué présenté comme ça, mais en termes d'expérience, en fait, c'est juste qu'il n'y a plus cet observateur qui observe la situation de haut et qui définit ça c'est bien, ça devrait être comme ci, comme ça, pas bien. Non, en fait, on est plongé dans la situation, on est la situation, on devient la situation. Et le fait que ce soit pénible ou pas, en fait, peu importe.
parce que c'est ce que c'est. Donc ça paraît, oui, en termes, c'est une expérience, hein. Donc avec les mots, ça rend pas, ça peut permettre de toucher à ça, mais là où on parle de non-effort, c'est qu'en fait, du coup, ça devient, le côté exaspérant de la situation disparaît, et en plus, ce qui se passe à la place, c'est un intérêt qui remplace le caractère peut-être pénible. Et on parle même de caractère plaisant, même de félicité. Alors c'est pas du masochisme, hein. C'est absolument pas du masochisme. C'est au bout d'un moment, voilà, il y a plus, voilà, il y a plus la conception d'un ailleurs. La souffrance vient du fait que on veut être ailleurs. On ne veut pas que ce soit comme ça. C'est comme ça. C'est vachement facile à dire, hein. Franchement, je ne fais que voilà. Retranscrire comment c'est, voilà, quand certains maîtres parlent de la patience, en termes d'expérience, voilà, à vous de voir. Mais on parle bien, voilà, de quand même de félicité. Shogam Trungpa parle d'ironie. D'ironie parce que on se rend compte que des situations qui, à première vue, nous paraissaient très désagréables, très pénibles, tout d'un coup, on se retrouve au cœur de la situation et ça pose plus de problème. Et c'est ça qui rend le truc
souvent, quand
intéressant.
Même.
Bah oui, si bien. On est en fait, bon, la clé c'est d'être.
Hein?
C'est bien, pardon.
Non, mais c'est souvent quand on anticipe des trucs et quand ça, on est dedans, c'est beaucoup moins pire.
Oui, voilà. En fait, l'idée c'est comme quelqu'un qui serait en train de résoudre un puzzle. Quand on résout un puzzle, voilà, on fait appel à notre. Voilà, on cherche à résoudre les pièces du puzzle, mais pas dans l'idée vivement que ce soit fini. L'intérêt, c'est de vivre le puzzle. Oui. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. La situation est comme ça et nécessite une réponse. C'est-à-dire, voilà, on s'efforce de répondre à ce qui se présente, mais sans attente, il n'y a plus d'attente. Donc du coup, c'est là qu'il y a félicité. C'est-à-dire, on ne se débat plus en vue d'un résultat, on traite ce qui se présente, même si c'est pénible, même si c'est désagréable. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit être au cœur de la situation. Et là on parle de paramita parce que l'observateur disparaît, mais on n'est pas en train de se dire oui, est-ce que je suis bien libre du sujet, objet, destinataire. C'est pas du tout de l'intellect, c'est une expérience où l'observateur a disparu. On est la situation, on n'est plus celui qui subit la situation, on est la situation. C'est des mots, hein. Et les mots, ça c'est traître parce que ça ne traduit pas l'expérience, mais c'est juste, voilà, cette idée que quand on arrive à la paramita de la patience, il n'y a plus cette notion d'effort. Ça, c'est important. C'est aussi la promesse de la bouddhéité, c'est-à-dire qu'on continue à avoir des problèmes à régler. Voilà, on continuera à avoir des circonstances pénibles, désagréables, etc. Mais il y a quelque chose qui lâche. Il y a quelque chose de l'ordre de l'exaspération qui fait qu'on est prêt à vivre n'importe quelle situation. Et en voir aussi un intérêt dans leur potentiel de déraciner l'illusion. Comme Kshantivadin, qui est prêt à donner les membres de son corps. Mais on nous dit bien, hein, tant que vous n'avez pas réalisé la sagesse de la vacuité, donner votre corps, c'est un acte négatif. Ça serait dingue de faire ça. Il ne faut surtout pas le faire. Surtout pas le faire. Par contre, celui qui a réalisé la sagesse, bah, il voit la perspective, il voit la puissance, voilà, il en voit la portée. Et à ce moment-là, quand on a cette sagesse-là, qui voit beaucoup plus loin, en fait, Kshantivadin ne se... On dirait... Enfin, c'est pas tant... Il se sacrifie pas, il sacrifie pas son bonheur. Il voit directement comment, justement, ça le rend plus libre. Si on a cette perspective-là, oui, bah, à ce moment-là, on peut donner n'importe quoi, y compris sa vie, parce que ça n'a plus... voilà. Ça a une portée autre.
Pas très facile. Hein,
quand ah non, bah non, 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 non.
Tu nous
bah, surtout, c'est voilà, c'est facile d'en parler, à mettre en pratique. Hein, c'est autre chose. La patience, c'est arriver. Oui, à ne pas chercher de. Oui, la patience qui fait qu'on a, on laisse tomber le ressentiment, on laisse tomber voilà, le fait de trouver le bouc émissaire et pour porter sa haine, son aversion, pour trouver voilà, un responsable à notre malheur. Et donc, mais voilà, il faut faire bien attention. La patience, c'est une. N'implique pas qu'on reste passif. On est en action. On est voilà, motivé par le fait de résoudre ce qui se présente. Mais avec patience, c'est-à-dire en laissant tomber la névrose. La névrose qui nous fait porter le chapeau, qui nous fait chercher voilà, et développer de l'aversion vis-à-vis du responsable. Donc, dans les circonstances voilà, de la vie courante, on peut trouver ça. Effectivement, si on a affaire à un criminel, à un assassin, à un violeur, etc., là, c'est une autre paire de manches. Il y a de fortes chances, en plus, qu'on réagisse plus en mode instinctif. Parce que voilà, il y a des gens qui me disent « Bah oui, mais si quelqu'un s'avance avec un couteau, ou alors si on est en plus, avec quelqu'un qui veut nous violer, etc., la patience dans tout ça, là, je nuance quand même en disant que... Au point où on en est, à mon avis, on sera plutôt en mode instinct et que on fera. Enfin, mais qu'est-ce qu'impliquerait la patience là dans ces cas-là? C'est pas qu'on réagisse pas et qu'on se laisse faire. Ça peut être, c'est simplement avoir plus d'espace, avoir la sagesse. Donc ça demande énormément d'entraînement d'avoir ce genre d'espace dans ce genre de situation critique, quoi. Et peu de personnes l'ont. Mais c'est ça la patience, ça ne veut pas dire être passif, ne rien chercher à faire, ne pas chercher à se défendre.
Se défendre dans ce genre de situation avec patience, c'est possible.
Oui, c'est-à-dire sans haine, ouais. Sans ressentiment, c'est une protection de soi.
Et sans peur
Oui, dans l'idéal. Dans l'idéal, par exemple, je raconte, la Matsultrim, il raconte souvent cette histoire d'une nonne qui s'était fait violer, mais manifestement, dans cette histoire-là, cette nonne avait une certaine réalisation parce qu'elle était une pratiquante de Tcheu. Tcheu, c'est une pratique où on se visualise en train d'offrir son corps pour justement se détacher de l'attachement au corps et l'offrir. Et manifestement, elle avait une certaine réalisation parce que lorsqu'elle s'est fait violer, elle a eu suffisamment de sagesse pour faire cette pratique. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait rien faire, quoi. Elle était victime d'un viol. Donc elle ne pouvait pas agir ce truc. C'était voilà, la situation telle qu'elle était. Mais elle a pu quand même, par l'esprit, faire cette pratique au cœur de, voilà, vraiment, au cœur de la situation. C'est-à-dire, voilà. C'est le moment d'offrir son corps, mais pas seulement en esprit. Réellement. Donc là, ça demande une grande pratique d'avoir cet état d'esprit-là, c'est-à-dire plus de ressentiment vis-à-vis de l'agresseur, mais au contraire une opportunité pour se dire, au moins je peux faire ça, en esprit. Voilà, un bodhisattva avancé, il est capable de faire ça. Mais rien qu'en méditation, en fait, avant d'en arriver là, hein, et je finirai là-dessus, avant d'en arriver là, on va pratiquer sur des petites choses, sur les choses de notre quotidien, sur les choses qui se laissent travailler, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est pour développer la patience, travailler sur les choses qu'on est capable de le faire. Et en méditation, c'est ça, c'est on entend le bruit des oiseaux, et l'idée, c'est de ne pas prendre un fusil de chasse pour aller chasser les oiseaux de façon à ce qu'il n'y ait plus de bruit. Voilà, et puis qu'on soit enfin tranquille. Non, la patience, c'est essayer de trouver cet état d'esprit paisible au cœur de, voilà, s'il y a des sons, s'il y a des pensées, s'il y a de l'agitation, s'il y a voilà, plein de choses, arriver à trouver cette détente-là. Pas attendre que les problèmes soient résolus, pas attendre que les oiseaux aient fini de chanter ou des choses comme ça, quoi. C'est voilà, on trouve là...
Comment on peut doser entre ce qu'on... On décide de supporter ou d'accepter, et puis au moment où on décide aussi de faire changer les choses, voir les gens un peu parfois, comment on, jusqu'où on pratique la patience, mais à partir de quand on peut décider aussi qu'on peut faire changer les choses, Et là, c'est plus. On est dans, dans une action où, même avec calme, mais je veux dire, on peut.
Ça, c'est. C'est toute la difficulté. C'est vraiment. C'est toute la difficulté, quoi. C'est tout le caractère subtil. Et c'est vraiment très difficile, justement, de savoir ça. Et en plus, c'est propre à chacun. C'est-à-dire, le curseur de chacun est très, très différent. Donc, il n'y a que nous qui pouvons répondre à cette question. Après, pourquoi la patience, eh bien, après la paramita de l'éthique, c'est qu'on a quand même une trame de base. C'est que notre ligne de conduite, l'éthique, c'est renoncer à l'intention de nuire aux autres. Ça, il faut que ce soit solide pour qu'on puisse pratiquer la patience, c'est-à-dire accepter d'endurer une situation pénible sans justement rompre notre engagement de ne pas nuire aux autres. Il faut bien comprendre que tant qu'on n'a pas la réalisation, il y aura toujours un curseur, il y aura toujours un seuil qui fait qu'au-delà de ce seuil de douleur ou de caractère pénible, notre éthique elle disparaît. Il n'y a que justement quand on aura déraciné totalement l'illusion que notre éthique sera inébranlable, c'est-à-dire qu'on renoncera à l'intention de nuire aux autres, quelle que soit la situation. Mais tant qu'on n'est pas arrivé là, du fait qu'il y a encore une trace d'illusion, il y a toujours un moment où il y aura un seuil, en fait. Et passer ce seuil-là, ça sera trop pénible, et à ce moment-là, on n'est plus maître. On ne contrôle plus nos pensées, nos paroles, etc. Et ça peut nous conduire à blesser les autres.
Et avant d'atteindre ce seuil, est-ce qu'il y a un autre seuil plus bas où on peut décider que on n'est pas d'accord avec la manière dont ça se passe et qu'on estime que la bonne attitude, c'est pas d'accepter, mais c'est de provoquer le changement.
C'est pour ça que c'est très important de rester à l'écoute de ce signal dont je parlais au début. C'est-à-dire que quand on nous provoque, quand on a le sentiment qu'on nous manque de respect ou que la situation va de travers, il y a un signal, il y a quelque chose, il y a un trouble. Et ce trouble-là, il faut pas l'étouffer. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Il faut le sentir. Et après, la patience, c'est ce qui va nous aider à vivre ce trouble, donc ce caractère pénible. Mais plutôt que de réagir à l'impulsion, trouver de l'espace. Mais notre perspective de changer la situation, pourquoi pas. Après, ce qui va nuancer ça, c'est que on peut avoir en face quelqu'un d'autre qui, pour résoudre cette situation-là, il a un point de vue qui est totalement différent. Ça, c'est aussi la patience, de voir qu'on a notre point de vue et que la personne aussi a son point de vue, et comment concilier les deux. Même si nous, la réponse qu'on aurait apportée au final, c'est pas forcément la réponse qui va être apportée. Mais on va faire, on va concilier non seulement notre point de vue, mais avec le point de vue de lui. Voilà, on laisse rien de côté. C'est ça la patience, c'est ce que nous permet de faire la patience. Et on veut tous résoudre la situation, mais on a chacun une idée différente. Donc on est prêt aussi à lâcher, nous, comment on envisage que la situation se règle. Mais on va toujours vers le fait de régler la situation. Mais on lâche le fait de solidifier la réponse qui va être... Mais ça, c'est hyper subtil. Enfin, ça, c'est chacun qui va voir quand est-ce que je laisse tomber, quand est-ce que je pratique la patience, quand est-ce que je laisse la personne telle qu'elle est, la situation telle qu'elle est, ou au contraire, j'essaye de...
Surtout quand on sait qu'on a raison.
Et comme on a toujours raison.
Toi, peut-être.
En communauté, là, on vit bien ça. Hein. C'est très intéressant.
Ah, oui.
Parce que c'est marrant. Là, on passe de 3 à 6. À 3, c'est encore facile de comprendre les autres, quoi. On est, en échange, mano à mano, on s'échange les points de vue. À 6, c'est vachement difficile de savoir qui veut quoi et comment et pourquoi. Ça rend la communication pas évidente, quoi. Donc, d'ailleurs, on est obligé d'insister beaucoup plus sur la communication. Avant, ça va, on se connaît, Six personnes, dans l'eau, il y a toujours 2 ou 3, on les connaît moins bien. On voit son point de vue, etc. Et il faut trouver une réponse qui convienne à tous. C'est rarement celle que nous on aurait donné. Hein. Enfin moi, on, j'ai jamais on m'écoute. Et je déconne. Je dis ça parce que c'est enregistré.
On va l'envoyer à la main.
Après avoir revu le... l'enregistreur.
Non, non, mes colocataires sont tous d'une grande sagesse.
Je me souviens que Rinpoche, quand nous parlons de la patience, il nous avait évoqué ce président des États-Unis. Quand il était en pétard, il était vraiment à bout. Il écrivait une lettre où il mettait tous ses griefs, tous ses... Mais il attendait le lendemain et finalement, il ne l'envoyait pas.
Ouais. Ouais. C'est et ça, c'est très intéressant à faire. Oui. Ouais, c'est vachement intéressant à faire. D'attendre ne serait-ce que 24 heures. Ouais. Voilà, on écrit le truc que voilà sur le moment. Et d'attendre 24 heures et voir si c'est toujours pertinent le lendemain. Ouais. Bah, y a plein de choses qui passent à la trappe. Dans les deux sens, hein. Affectivement et...
Avec Twitter, ça marche pas.
Avec Twitter, oui, ça marche pas. Avec Twitter, ça marche pas, qui est visible.
Attention.
On voit pas de qui tu parles. Hein.
On va s'arrêter là pour ce soir. Non, tu voulais dire un truc, non. Daniel ? Non ? Plus de questions ? Non, moi je. Pas de problème.
Toute
hein.
La nuit. Non, c'est.
Ah oui. Ouais, ça serait bien qu'on fasse ça.
Ah oui.
Je voulais demander à ce propos juste rappeler le sens en français du mantra.
Oui, alors, le mantra de Tara là, qu'on va réciter ce soir. Donc,
On regarde s'il y a un texte ou pas.
Non, pas de texte, pas de mala, rien, pas de formel. Au contraire, c'est vraiment. On pratique avec le cœur. C'est ça qui est important. Le mantra, c'est un support. C'est-à-dire, on demande à notre faculté de parler, de prononcer un mantra. Ce mantra, c'est Om Tare, Tu Tare, Tu Re Sora. Je vais le répéter à voix haute, comme ça vous pourrez suivre et puis vous acclimater. Ça, c'est ce que fait, c'est le support, c'est ce que fait la parole. Voilà. Mais la méditation, ça se fait avec l'esprit. Et donc, ce qu'on fait, c'est on associe à ce souffle voilà, qui part, une évocation. Et donc, Tara, Tara, c'est celle qui élimine les obstacles, notamment les obstacles liés à la peur. Mais en fait, elle élimine donc principalement les obstacles liés à la peur, mais elle élimine tout obstacle et permet à tout de s'accomplir, autant nos aspirations temporelles que spirituelles. Voilà, c'est celle qui exauce les souhaits, donc c'est celle qu'on prie pour éliminer tout obstacle. Et en fait, c'est ça qu'on met derrière le mantra. Quand on récite Om Tare, Tu Tare, Tu Re Soha, on met cette évocation que ce mantra élimine. Voilà, comme si voilà, on le prononce à la manière d'une mère qui rassurait son enfant. Tout va bien se passer. Je suis là. Om Tare, Tu Tare, Tu Re Soha. On imagine que voilà, ça touche tous les êtres, et notamment les proches voilà, qui rencontrent des difficultés auxquelles on pensait, etc. Et c'est ça la méditation, c'est de maintenir à chaque fois qu'on prononce ce mantra, cette confiance. Cette confiance que les conditions vont arriver pour que la situation soit voilà, vécue de la meilleure manière, que les obstacles à l'activité, les obstacles à la santé soient dissipés, des choses comme ça. Voilà, c'est une pratique de confiance, on développe de la confiance. Parfois on a besoin de s'en remettre en fait. On a besoin de s'en remettre à quelqu'un, même si du point de vue ultime, Tara n'est pas une entité extérieure à nous-mêmes, c'est un aspect de notre nature de Bouddha. C'est ce qu'on réalise quand on réalise notre propre nature, c'est cette capacité illimitée. Illimité d'accomplir nos souhaits, à la fois temporaires et spirituels. Et là, comme on a besoin de s'en remettre à quelqu'un pour cultiver cette confiance-là, voilà, on visualise Tara sous l'apparence d'une mère, la mère de tous les Bouddhas. Donc, je ne vais pas rentrer dans la visualisation parce que c'est pas ce qui nous importe. Mais voilà, l'idée, c'est chaque fois qu'on récite ce mantra, on met une vue, on met une évocation, confiance. Tout va bien se passer. Om Tare, Tu Tare, Tu Re Soha. Ça dissipe tous les obstacles et ça se répand dans l'univers.
c'est les souhaits pour le Karmapa.
Donc
c'est
voilà, on peut diriger voilà ces souhaits pour le Karmapa, pour Béa, pour voilà tous les êtres voilà avec qui on a envie que les choses aillent mieux, se dissipent. À son rythme. Om Tare Tutare Ture Soha. 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 Tutare Ture Soha. Om Tare 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 Tutare Ture Soha. Tare Tutare Ture Soha. Om 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 Om Tare Tutare Ture Soha. Faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et, sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.
Merci.